Bonjour et bienvenue sur le podcast du Centre. Je m'appelle Jade Anchaud, je suis psychologue FSP, thérapeute de couple et sexologue ici au sein du Centre de sexologie et couple de la Côte. Je suis très très heureuse de faire ce tout premier épisode qu'on a décidé d'intituler « À deux vitesses, parler du désir dans la relation ». Donc l'idée de ce podcast, c'est qu'à chaque épisode, je vais avoir la chance de recevoir une thérapeute du Centre pour qu'on explore ensemble des thématiques qui nous touchent toutes et tous, que vous soyez en relation, célibataire ou juste curieux, curieuse, d'en savoir plus sur les questions autour des relations et de la sexualité. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir comme première invitée Laurence Dispo, responsable du Centre depuis 7 ans. Bonjour Laurence, merci beaucoup d'être là. Je suis trop contente de faire ce premier podcast avec toi.
Merci Jade, je suis ravie.
Donc pour commencer, est-ce que tu es d'accord de te présenter en quelques mots ?
Oui, bien sûr. Donc à la base, j'ai fait la psycho et puis la psychothérapie. Et dans la foulée, je me suis formée dans différentes approches sexologiques, la thérapie de couple. J'ai fait la systémique à la base et puis maintenant, je vois surtout des personnes en individuel et en couple, essentiellement autour de conflits de couple et de sexualité.
Ok. Et tu as récemment écrit un livre sur le décalage de désir dans la relation, le désir dans le couple, comment gérer le décalage d'envie sexuelle sur la durée. C'est un livre génial qui permet de comprendre ce qui constitue ce décalage, comment le désir fonctionne pour chacun, chacune dans la relation et qui donne également des témoignages très parlants et touchants que tu as rencontrés dans ta clinique. Et tu donnes bien sûr aussi des outils pour la communication et pour reconstruire ce lien intime précieux. Pourquoi avoir écrit ce livre là-dessus, sur ce sujet ?
Franchement, c'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Je voyais beaucoup de couples et je vois beaucoup de couples qui consultent parce qu'ils souffrent autour de ce qu'eux, ils appellent un problème de désir. Souvent, l'un ou l'autre des partenaires ou l'une ou l'autre des partenaires est étiqueté comme étant moins désirante ou moins désirant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, il s'agit plutôt d'une différence entre les deux, qui est d'ailleurs pas toujours une différence en termes de libido, mais ça peut être différent type de différence, de décalage. Et là est la souffrance dans la différence entre les deux.
J'imagine qu'il existe plusieurs types de décalage de désir sexuel dans la relation. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Voilà, alors on peut effectivement parler de fréquence. Une personne a des désirs sexuels très fréquemment, l'autre moins, ou en tout cas ressent la pulsion sexuelle plus ou moins facilement. Il peut y avoir différentes manières de ressentir le désir et une personne peut sentir le désir de manière plus spontanée et l'autre peut-être de manière plus réactive, on pourra en reparler. Il peut y avoir un décalage autour de qu'est-ce qu'on recherche dans la sexualité. Des personnes qui peuvent chercher plutôt un plaisir sensoriel, charnel, et puis l'autre personne peut-être recherche à être rassurée sur le lien amoureux. Et là, il peut y avoir un décalage sur ce qu'on recherche dans les moments d'intimité. Il peut y avoir des décalages autour de ce qui constitue le plaisir. Une personne peut avoir du plaisir dans la lenteur, dans les caresses, alors que l'autre personne a du plaisir plutôt dans la décharge, dans l'orgasme. Là, de nouveau, ça peut être un décalage. Il y a pas mal de types de décalages différents, en fait, mais c'est toujours la différence qui fait souffrir parce qu'on se dit « Ah bah, je ne suis pas acceptée telle que je suis, je dois changer, je dois être plus comme l'autre » ou bien « Ah, l'autre est tellement différent, peut-être qu'on n'est pas compatible, peut-être qu'on ne peut pas avoir une vie sexuelle épanouissante, ou bien si l'autre a des envies tellement différentes de moi, peut-être qu'il ne m'aime pas ou qu'elle ne m'aime pas. » Et c'est surtout dans l'interprétation, souvent, dans le sens qu'on donne à ces différences, qu'il y a souffrance dans le couple.
Et c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler, toi et moi, et au centre, avec ces deux types de désirs. On parle de désirs spontanés et réactifs. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ?
Oui, c'est une différence quand même assez importante et qu'on voit, toi et moi, quasiment, je pense, avec tous les couples qu'on voit. Alors, pour imager, on pourrait visualiser que moi, je me lève le matin et qu'au cours de ma journée, j'ai des moments comme ça où je pense à la sexualité, où je ressens une envie dans mon corps. J'ai envie de me rapprocher de l'autre ou bien d'avoir une activité en solo. Ça me tombe de nulle part, c'est un peu magique. Je le contrôle pas vraiment, j'ai l'impression que c'est mon corps qui me parle ou mon esprit qui arrive avec un imaginaire débordant. Et là, je vais plutôt me dire « Ah ben moi j'ai un désir plutôt spontané ». c'est ce qui se passe souvent en début de relation ou quand on est très jeune et en bonne santé et vraiment que voilà, la libido est effectivement très très en effervescence. Mais ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous, surtout après quelques mois ou quelques années de relation, c'est plutôt le désir qu'on appelle le désir réactif. Alors là, imaginons que ben, je me lève, j'y pense pas forcément, je passe ma journée. Et puis par contre, à un moment, je me dis, ah tiens, est-ce que je serais dans un état de réceptivité? Ah oui, peut-être. Alors je vais mettre en place certaines conditions qui vont favoriser ma réceptivité. Ça pourrait être prendre une douche ou un bain, imaginer un bon petit repas avec mon partenaire. Ça pourrait être m'assurer que les enfants sont couchés s'il y a des enfants. Toutes ces choses qu'on va mettre en place, hein, peut-être fantasmer un petit peu, imaginer, toutes ces choses qu'on va mettre en place qui sont mes accélérateurs à moi, et tes accélérateurs vont peut-être être tout à fait différents, parce qu'on est tous uniques et on va avoir certains freins et certains accélérateurs qui seront différents. Et là, on est dans un désir qui se travaille un petit peu plus, un désir réactif. Mmh. On va commencer à avoir des câlins et puis le désir va émerger. Ou pas, il n'y a pas de garantie par rapport à ce désir. Mais ce désir réactif, dans tous les cas, il n'est pas moins valable que le désir spontané.
C'est vrai qu'en clinique, souvent quand on explique ces deux concepts aux patients, il y a souvent la phrase, en tout cas dans ma clinique à moi, de « mais alors le désir réactif, c'est moins bien. Moi, j'aimerais pouvoir avoir un désir spontané, c'est beaucoup plus facile. » Et c'est ce qui est aussi romantisé aussi, mm-hmm. hein, dans la vie, dans la société.
Dans les films, dans les livres, ouais. On a tous été baignés dans le désir plutôt spontané, qui est plus fort que tout, qui est exactement. Passionné. Ouais. Et oui, ce que tu dis, c'est vraiment important, parce que dans les couples, souvent, il y a un désir, souvent le désir spontané, qui est plus valorisé mmh. et qui est plus porté par l'un ou l'autre des partenaires. Parce qu'on fonctionne différemment et c'est vrai qu'il y a des partenaires qui ressentent plus facilement l'émergence du désir de manière un petit peu plus spontanée et comme ça des couples qui vont un peu étiqueter le désir réactif comme moins authentique, moins naturel, plus forcé. Alors que c'est pas le cas, c'est juste qu'il faut un petit peu plus de travail effectivement pour le désir réactif, mais si on lui donne sa place, on peut l'exploiter beaucoup plus longtemps que le désir spontané. Et puis les gens qui sont en couple depuis 50 ans, 60 ans, ils ont tout intérêt à savoir comment exploiter le désir réactif, parce que c'est plutôt celui-là qui va s'installer sur la durée. Et moi, je travaille beaucoup avec des couples qui veulent installer une belle vie sexuelle pour la durée.
Tout à fait. Et c'est vrai que j'aime bien dire aussi à mes patientes que... Au final, au début de notre relation, certes, il y a un désir plus spontané, mais parce qu'aussi, on choisit de prendre rendez-vous en début de relation.
Exact. Hein,
et qu'en fait, on a tendance à oublier que, bah, on doit aussi prendre rendez-vous pour ce genre de thématique.
On doit prendre rendez-vous déjà avec soi pour commencer à y penser, à imaginer, à se mettre en condition et à mettre en place les meilleures conditions possibles.
Donc en séance, comment est-ce que tu travailles concrètement avec ce décalage ?
On va surtout rechercher ce qui fait plaisir aux deux. C'est-à-dire qu'on va chercher quel type de désir on peut avoir pour tel type d'activité. C'est-à-dire, quelle est la sexualité qui mérite d'être désirée, si tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. On ne va pas désirer une sexualité qui me fait mal ou qui me met dans l'inconfort ou avec une personne avec qui je ne me sens pas en sécurité. Mm-hmm. On ne va pas rechercher une sexualité où on se sent malmené ou on ne se sent pas accepté pour qui on est. Et donc, on va travailler sur tous ces facteurs qui sont des facteurs qui favorisent le plaisir pour l'un et pour l'autre. Et ça peut être des facteurs différents de couple en couple.
Ok. C'est vrai que quand il y a un décalage de désir dans la relation, l'un ou l'autre peut rapidement se sentir seul, coupable ou incompris, incomprise. C'est vrai que c'est des choses que tu vois aussi pas mal.
Absolument. Il y a des émotions vraiment profondes hein, qui... on court dans l'intimité, c'est quand même un domaine de notre vie où on est très vulnérable, où on se laisse voir par l'autre, vraiment dans notre fragilité humaine. Du coup, oui, comme tu le dis, il y a souvent des interactions comme ça qui suscitent chez l'un ou chez l'autre. Ça peut être de la culpabilité, un sentiment de solitude, ça peut être de l'impuissance aussi, ça peut être de la tristesse. Et toutes ces émotions, souvent, on va les exprimer de manière un peu facile, hein, par la colère, les reproches, les accusations, l'énervement, c'est ce qu'on appelle les émotions secondaires.
Ouais.
Et c'est ces émotions qui finalement vont créer la difficulté dans le couple. Donc ce qu'on voit, c'est ces couples qui arrivent où l'un ou l'autre se sent vraiment étiqueté comme problématique. l'autre se dit qu'il ou elle a tout compris et vient pour qu'on répare la personne qui a moins de désir. Et donc, ce qu'on va travailler, c'est effectivement les émotions chez l'un et chez l'autre, parce que la personne qui a moins de désir ne se rend pas forcément compte que la personne qui est harcelante d'une certaine manière dans son comportement, peut-être se sent aussi très seule ou très incomprise ou négligée ou pas entendue. Tout comme la personne qui se vit comme plus désirante ne sait pas forcément à quel point l'autre se sent sous pression ou coupable ou honteuse.
Et les patients, ils consultent plutôt seuls ou à deux ?
Enfin, vraiment les deux cas de figure. Dans les cas de décalage de désir, je pense que c'est quand même plus adéquat souvent de voir le couple. Par contre, il y a pas mal de personnes qui viennent en individuel pour travailler des choses plus personnelles, par exemple des traumas. Des choses, des blessures hein, qui se sont passées bien avant le couple et qu'on va travailler plutôt avec des techniques comme le MDR par exemple.
Et quand le désir il est à deux vitesses, est-ce qu'on peut retrouver un équilibre selon toi ?
Oui, très souvent, on retrouve un équilibre. Alors, c'est souvent un nouvel équilibre. C'est souvent quelque chose qui est différent de ce qu'on avait avant. Peut-être qu'on va bousculer un petit peu le protocole sexuel, c'est-à-dire bousculer un petit peu les habitudes qu'on avait avant. On va peut-être donner plus de place, justement, au désir réactif. On va peut-être avoir une sexualité moins axée sur la performance ou la pénétration, ou l'orgasme, et être plus dans le lien, dans le rapprochement, dans la sensualité. On va souvent changer pas mal de paramètres, mais oui, on peut retrouver l'épanouissement.
Tu as un exercice que je trouve génial, qui permet de prendre conscience de l'évolution de ce désir. Est-ce que tu es d'accord de le faire ici avec nous?
Oui, bien sûr. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre conscience du fait que le désir et la sexualité ne restent pas pareils toute une vie et que forcément, si on est en couple avec quelqu'un pendant quelques années, notre désir va évoluer, le sien va évoluer et donc forcément le désir au niveau du couple va évoluer. Donc l'exercice, c'est celui-ci. Imagine ou souviens-toi de la sexualité que tu avais il y a 10 ans ou peut-être même 5 ans, les désirs que tu avais, ce que tu souhaitais, ce que tu fantasmais, les besoins que tu avais, les sensations que tu avais, les manières que tu avais de faire monter ton excitation et ensuite apaiser ton excitation, comment tu gérais ton excitation, quelles étaient les sources d'excitation, quels étaient les types de personnes que tu recherchais dans ton imaginaire ou dans la réalité pour soutenir cette excitation. Tout ça faisait ton érotisme il y a 10, 15 ans. Et maintenant, regarde comment ça a changé. Est-ce que tout ça, c'était la même chose qu'aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as exactement les mêmes fantasmes, les mêmes besoins, les mêmes manières de gérer ton excitation, les mêmes choses que tu vas rechercher ? Et s'il y a des différences entre ce que tu vivais il y a 5, 10 ans et ce que tu vis aujourd'hui, imagine ce que ton conjoint ou ta conjointe va aussi vivre comme évolution. Ce que toi tu vas vivre et ce qu'eux ils vont vivre les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, les 20 prochaines années. Quand vous aurez 60 ans, à quel point vous aurez remanié votre érotisme, chacun et ensemble, maintes et maintes fois au cours de ces années. Comment est-ce qu'on peut imaginer avoir la même sexualité avec une personne sur la durée ? Impossible, non ?
On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un message pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ?
Oui, alors par rapport au désir dans le couple, le message que j'aimerais transmettre, c'est que on pourrait se dire « ça va passer, ça c'est une mauvaise stratégie », on pourrait se dire c'est horriblement grave, ça veut dire qu'on est incompatible, ça c'est aussi la mauvaise stratégie, on va dire. Mais il y a des stratégies entre deux. Ça peut être en discuter, essayer de voir quelles sont peut-être les craintes ou les appréhensions de part et d'autre qui peuvent expliquer les évitements. Ça peut être de travailler sur le couple et sur la relation. Ça peut être d'identifier les freins et les accélérateurs. Ça peut être de transformer la sexualité qu'on vit avec cette personne ou avec d'autres personnes. Ça peut même être complètement ouvrir et casser les limites et les barrières qu'on s'était mises. Quelque part, vous allez trouver une stratégie entre « c'est pas grave, ça va passer » et être dans l'évitement de la, de l'affrontation, on va dire, de la confrontation avec ce décalage. Et l'autre extrême, c'est gravissime, on doit se quitter. Il y a plein de stratégies entre deux.
Merci beaucoup Laurence.
Avec plaisir.
Pour ce que tu nous as amené aujourd'hui. Donc si cet épisode a fait écho à ce que vous vivez ou vous a donné envie d'en parler, n'hésitez pas à vous tourner vers nous. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site du centre www.sexologiecouple.com. Merci à vous pour votre écoute. C'était le premier épisode du podcast du centre. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous.